Et c'était qui nos ancêtres alors?
Les ancêtres des éléphants, c'était les mammouths, les hommes préhistoriques. En fait, je crois que c'est des singes qui se sont transformés peu à peu en hommes.
C'est quoi un Gaulois?
C'est nos ancêtres en fait. Les Gaulois battent les Romains, mais dans la vraie histoire, en fait, normalement, c'est les Romains qui battent les Gaulois. Mais ça, c'est une fausse histoire qui est rigolote, tout ça, c'est très rigolo.
Quand on est français, par exemple, on boit du vin de Bordeaux, par exemple. C'est une capitale régionale de la France.
Et vous, vous mangez quoi à la maison?
On mange du couscous, du tchèb.
Comme nous. Nous, on mange du riz, du couscous, du poulet, du thé. On boit du thé.
Toi, tu préfères vivre en France ou vivre dans ton pays?
Je sais pas, parce que je suis en France et je suis jamais allée dans d'autres pays.
On a fait une petite liste en studio sur le tableau. Être français, c'est... Est-ce que vous pouvez lire, Jean-Christophe Meurice, les quelques mots que vous avez écrits?
Alors, être français, c'est... Alors, ça veut rien dire. C'est gueuler après l'arbitre. C'est manger trois fois par jour. C'est lire, Astérix et Obélix. C'est très mal parler anglais. C'est manifester le dimanche après le rôti du dimanche midi. C'est la grande vadrouille.
Est-ce que vous pouvez compléter la liste, Blandine Henkel?
C'est réfléchir trop longtemps à la terrasse d'un café en fumant une cigarette l'air pénétré. Et être français, c'est Joe Dassin et Serge Gainsbourg. Maître Gims et Aznavour.
C'est qui les Gaulois, Jean-Christophe Meurice?
Pour moi, les Gaulois, c'est obligatoirement Astérix et Obélix. C'est tout ce que c'est. C'est une bande dessinée.
Et nos ancêtres?
Je les connais pas personnellement, mais comment dire, c'est une vieille légende pour la France. Une très vieille légende. En tout cas, si je puis me permettre, c'est ce qu'on essaye d'évoquer très très mal dans notre dernière pièce de théâtre avec les Chiens de Navarre.
Et vous mangez quoi chez vous? Il y a du vin Bordeaux?
Moi, le vin, c'est étrange, ça me donne mal à la tête. La bière, ça me fait pisser. Donc, je suis pas très porté sur l'alcool. Moi, qu'est-ce que je mange? Je mange pas beaucoup de plats en sauce. Je suis un très mauvais français. Je déteste l'odeur du barbecue. Et ce qui fait que je pourrais être considéré comme un très mauvais français. Déjà que je suis un très mauvais breton parce que je bois pas beaucoup. Et j'ai très peur, j'ai pas le pied marin. J'ai très peur de l'eau. Donc voilà, comme disait Thomas Bernard, je suis bien nulle part.
Se passer. Faut-il y penser? Si on y pense, on se porte la poisse. On joue les Cassandres. Et d'une certaine façon, on risque de le faire arriver. Mais si on n'y pense pas, à ce moment-là, l'inévitable va se produire du côté où précisément on ne faisait pas attention. Et il y a un réflexe chez chacun qui consiste à ne pas évoquer le pire.
Il est 23h et il faut lutter contre l'air entendu. Combien de fois on a ironisé sans savoir pourquoi? Combien de fois on a pris un air entendu, on a sous-entendu, qu'on avait tout compris et ça depuis longtemps, qu'on n'était pas assez bête pour y croire encore? En France, on s'est fait confisquer l'avenir par les airs entendus. Des cyniques tristes qui ont la prétention de paraître cool, de faire les malins en répétant des mots morts pour mettre à terre l'époque et ouvrir la voie à des phrases comme « je vous l'avais bien dit ». Ça permet d'écraser les enthousiasmes efficacement en conservant le panache de ceux qui ont compris le désastre avant les autres. Ne pas s'étonner de la catastrophe serait y échapper en partie. Il vaut mieux montrer que tu n'as jamais été pris de court. Toi, tu sais, tu savais. Dans le collectif Catastrophe, il y a des filles et des garçons qui sont nés dans les années 90. qui cherche des antidotes aux phrases comme « c'est comme ça et pas autrement » ou encore « il va bien falloir s'y faire ». Le mot « crise » ne leur fait pas peur, ils ont grandi avec, excités à l'idée de tout remettre à zéro, contre l'idée du sarcasme permanent et pour un vrai rire de soulagement. C'est peut-être celui-là, le rire de 2017, qu'a inventé Jean-Christophe Meurice avec les Chiens de Navarre. Il met à jour deux sentiments qui rendent vivants, la joie et la colère. À l'heure où la parole est décomplexée, dans le spectacle « Jusque dans vos bras », il l'a fait exploser pour redonner du sens à nos échanges. On se met dans une salle de théâtre et il nous fait tous répéter en même temps « Je suis en colère, mais je ne me laisserai pas faire ». On remplace nos airs entendus par un sentiment, une vraie phrase. On se met à rire du manège que l'on fait chaque jour. On se met à vouloir faire des phrases jamais prononcées, pas mille fois entendues et répétées. On se met à vouloir parler pour de vrai.
Évidente, chaque génération traite la vie qu'elle trouve à son arrivée dans le monde comme une donnée définitive, hors les quelques détails à la transformation desquels elle est intéressée. C'est une conception avantageuse, mais fausse. À tout instant, le monde pourrait être transformé dans toutes les directions, ou du moins dans n'importe laquelle. Il a, pour ainsi dire, ça dans le sang. C'est pourquoi il serait original d'essayer de se comporter non comme un homme défini dans un monde défini, où il n'y a plus, pourrait-on dire, qu'un ou deux boutons à déplacer, mais dès le commencement, comme un homme né pour le changement, dans un monde créé pour changer.
Et c'est une citation, Blondine Rengel,
de Robert Musil,
qui est au début de votre livre « La nuit est encore jeune ».
Exactement.
Il y aura ce soir Jean-Christophe Meurice, qui vient de présenter le spectacle « Jusque dans vos bras » au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, et qui part en tournée en France jusqu'en mai, à commencer par Montpellier les 7 et 8 décembre, et Dijon du 12 au 21 décembre. Il y aura quatre membres du collectif Catastrophe, Blandine Rinkel, Pierre Jouan, Arthur Navellou et Adrien Bouvier, pour leur livre « La nuit est encore jeune » paru chez Pauvert. À la musique en studio, il y a Eddy de Préto avec son EP Kid. Il sera en concert le 7 décembre à Bordeaux, avant Châtenay-Malabry et Amiens, et avant le 20 décembre, la première partie à Bercy de Julien Doré. C'est une vie d'artiste sur France Culture, une vie marquée forcément par un événement.
Bon d'accord, entre champagne et petit four, ça peut le faire. Mais la version qu'ont acclamé les 6000 jeunes présents dans le parc élyséen, c'est l'original. Et ça tombe bien parce qu'au moment où We Are the Champion résonnait aux quatre coins du jardin, comme par magie apparaissaient les 22 vainqueurs de la Coupe du Monde, tenues décontractées, les mains en l'air, la foule au bord de l'hystérie, et le joueur le plus acclamé, c'était bien sûr Zinedine Zidane.
Cette Coupe du Monde, et maintenant elle est là au moins pour 4 ans, donc on va la garder et on va faire encore la fête très longtemps. Mais merci à tout le monde.
Moi je viens de citer, donc ça fait bizarre de venir ici. Je voulais voir Zidane surtout.
Et alors ?
Eh ben je l'ai vu, je suis fière. Voilà.
Voilà-t-il pas que Zinedine Zidane, Lilian Thuram et leurs amis feraient plus aujourd'hui pour l'intégration que 10 années de politique de la ville dans les banlieues défavorisées. La ferveur suscitée par la compétition effacerait les clivages, les classes sociales, les préférences politiques. La composition même de l'équipe serait le symbole d'une nation plurielle, multicolore et réconciliée. Acceptons-en l'augure.
Jean-Christophe Meurice, c'est de la préhistoire, ce moment de 98 ?
Pour moi, c'était hier. Et c'est vrai que moi j'y ai cru. Moi, j'y ai cru pas le fait que la France gagne la Coupe du Monde, parce que même si j'adore le foot et que j'étais très heureux, voilà, le foot n'est pas devenu à la mode pour moi, parce que je suis né dedans, entre guillemets. Mais par contre, moi, j'y ai cru à cette France 98 blanc-beurre. J'ai du mal à le dire. Mais voilà, et quand on voit tout ce désenchantement des années après, pour X raisons, pour on ressort 3-4 ans après la notion d'identité nationale, qui est quand même un concept fumeux, comment dire, et qui, enfin, qui permet de mieux, comment dire, cacher la poussière sous le tapis. C'est vrai qu'il y a une nostalgie, ouais. Ouais, c'est-à-dire combien de temps on y a cru, ça? Le temps de l'été 98? Quand on voit maintenant, souvent par rapport à la pièce Jusque dans vos bras, on dit que j'exagère un petit peu, que je suis pessimiste. Moi, je dis souvent qu'on est au bord de la guerre civile, quelquefois, dans notre propre pays, face à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais je le pense pas, c'est pas une blague que vont... Comment mes enfants vont vivre dans ce monde-là et tous les autres enfants? Enfin, c'est un peu étrange de dire ça. Mais quand on voit que depuis 2002, il y a eu deux tours présidentiels avec le FN qui est arrivé donc au deuxième tour. Ouais, on se pose la question. Ouais, c'est assez loin. Ouais, 98.
Et vous la datez quand justement cette notion d'identité nationale? Parce que c'est une obsession récente ou vous avez l'impression d'avoir grandi avec?
Non, moi j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, hein, parce que évidemment je suis idiot comme un artiste, mais comment dire, c'est pour moi c'est Sarkozy et le ministère de l'immigration et tout ça, toutes ces notions là, voilà, c'est cette émergence là. Comme il fallait, quand je dis planquer la poussière sous le tapis, c'est-à-dire que effectivement on traverse, comment dire, un moment très difficile économiquement, on gère mal les choses, mais bon, voilà, on gère mal les choses, qu'obligatoirement c'est la faute du voisin qui est différent. Donc, ce qu'on peut constater aussi, en étant peut-être encore un peu pessimiste, mais je sais pas, hein, j'évoque des choses, mais j'ai l'impression qu'on assiste sous nos yeux, on voit l'effondrement politique. C'est ça qui, comment dire, me chagrine beaucoup. Et c'est vrai que, au-delà du fait, là j'en parle très sérieusement, faut pas croire, j'aime beaucoup rire aussi, parce que je pense que c'est salvateur et ça permet de mettre en place notre fusible intérieur. Bon, là, je me suis perdu, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, l'effondrement politique, oui, c'est quelque chose qui nous peine énormément. C'est de ça dont on parle, par exemple, dans Jusque dans vos bras. Au-delà du fait que, on le dit très vite dans la pièce, hein, l'identité nationale, c'est une vaste plaisanterie, quoi. On peut pas dire mieux. On sait très bien qu'en plus l'histoire de France montre bien qu'elle a toujours été multiculturelle. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? On sait bien que toutes les origines ont construit la France, l'histoire de la France, la République française. Donc qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, a-t-on vraiment... Voilà, donc... tout ça est même conscient, inconscient... Voilà, c'est parti d'un malaise, cette pièce. Et après, il a fallu la transformer en rire, parce que chacun son école. Mais c'est parti d'un vrai malaise qui a été amplifié, effectivement, avec les événements de 2015. Où là, les tensions communautaires sont montées d'un cran, quoi. Là, on pourrait faire croire n'importe quoi aux gens. Non? Je sais pas.
Justement, je vais me tourner vers le collectif Catastrophe. Alors, je sais pas, on va voir qui répond en premier, mais vous aviez quel âge en 98? Est-ce que vous l'avez vécu, ce moment de nation plurielle et réconciliée?
7 ans.
Je sais pas quel âge j'avais, mais inconsciemment, ça doit faire appel à des émotions assez fortes, parce que c'est très émouvant d'entendre la voix de Zinedine Zidane. Je sais pas, pour vous, mais... ça fait appel à quelque chose d'inconsciemment très fort, quoi.
Mais sans doute que nous, on n'était pas assez âgés pour conceptualiser notre espoir ou notre envie ou notre désir d'une société. C'est-à-dire que oui, ça fait appel à des souvenirs, mais c'est pas un concept qui ensuite a été invalidé parce qu'on l'avait pas conceptualisé, donc.
Parce qu'il a jamais existé.
Non. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu tellement un espoir déçu, plutôt d'avoir été...
On l'a pas articulé, mais je pense que oui, on a dû le recevoir d'une certaine manière. Toutes ces énergies positives, ces gens dans la rue qui communient.
Ouais, c'est fort. Je pense que c'est un grand moment, au-delà du football, hein, parce qu'il y a des gens qui détestent le football. Bon, voilà. Mais je pense que ça a été un grand moment dans notre histoire, ce rassemblement-là. Qui a été plus important, paraît-il, en masse dans la rue que avant, c'était la fin de la guerre 39-45. Donc c'est pas rien quand même au niveau ce que ça a pu véhiculer. Et puis moi j'avais 23 ans, mais même enfant, je pense 7, 8, 9 ans, je pense que ouais, c'est une énergie qu'on reçoit. Effectivement, on l'intellectualise pas, mais j'imagine que c'est même peut-être, enfin si je puis me permettre, c'est peut-être même pire, quoi. Enfin de sentir que cette chose là. Enfant, on se disait, tiens, voilà,
C'est aussi quelque chose qui est sans arrière-pensée. Moi, quand je pense à 98, je pense à quelque chose de pur.
Ouais.
Quelque chose de beau.
Mais moi, j'ai eu une photo au bac de justement ce groupe. Ce groupe de France 98,
ah oui,
qui nous expliquait qu'est-ce que c'est, en fait, la France Black Bomber. Ce qui est une preuve que...
C'était un
c'est
sujet
terminé.
Du bac.
C'était un sujet du bac, quoi.
Ah ouais.
Donc c'est aussi la preuve que c'est terminé. En fait. C'est rentré dans l'ADN. Mais aujourd'hui, c'est... Voilà.
Justement, vous êtes deux collectifs, parce que Les Chiens de Navarre, Jean-Christophe Meurice, c'est un collectif. Le collectif Catastrophe, c'en est un aussi. Vous parlez chacun de génération et vous avez à peu près juste 10 ans d'écart, c'est pas énorme. Comment vous définiriez peut-être chacun cette génération? Et au début du spectacle, Jean-Christophe Meurice, vous parlez du sentiment d'insécurité et vous en riez avec la salle. Mais ce serait quoi d'où il vient ce sentiment d'insécurité pour chaque génération?
Ah bah... C'est compliqué, oui, on dit ça au début du spectacle parce qu'on s'amuse, parce que le spectacle se passe au bout du Nord, donc c'est le quartier La Chapelle. Qui est
bon, merci les spectateurs d'avoir bravé.
Oui, on les remercie d'avoir bravé, d'être arrivés comme ça, d'être arrivés au bout du Nord en traversant des gens différents. Donc peut-être d'un sentiment d'insécurité est né pendant cette traversée. Et donc on, évidemment, c'est, tout ça est une provocation. Non, l'insécurité, c'est quoi maintenant? C'est je sais pas, c'est par exemple tous les amalgames qu'on fait après les attentats, quoi. C'est-à-dire qu'on, voilà, on se met à paranoïer, à avoir peur de tout, et, étrangement, bêtement, enfin. Oui, on se moque de ça, mais encore une fois, peut-être que je m'obsède. Mais c'est tout ça, cette insécurité-là, ce sont des messages véhiculés par certains partis. Donc, comment dire, on y croit.
Mais est-ce que le fait même de faire collectif et de dire nous, vous écrivez nous dans votre essai La nuit est encore jeune, c'est une réponse à ça?
Oui, nous, l'insécurité, peut-être que ce mot désigne très concrètement et très petitement ou basiquement ce qu'on ressent pour nos vies. On les sent pas sécurisés, c'est-à-dire sur un plan professionnel, affectif, toutes les manières dont on peut étudier la vie. On se sent pas en sécurité, quoi. On se dit pas, tiens, aujourd'hui on peut avoir un boulot et puis garder le même toute sa vie, et la retraite, par exemple, la retraite, je sais pas vous, mais moi j'y crois pas du tout. Mais c'est de l'ordre de la foi, quoi. C'est-à-dire que je me dis non, jamais j'aurai une retraite. Ça me paraît complètement fou de pouvoir croire qu'un jour j'aurai une retraite. Je sais pas d'où vient. Je dis pas du tout que j'ai raison. Hein. J'exprime juste un sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'on le partage plutôt dans Catastrophe. Et en effet, peut-être qu'essayer de créer un petit îlot de sensibilité qui se comprennent, qui rigolent ensemble aussi, c'est un moyen de remettre un peu de confiance,
chaleur.
Ouais, de chaleur, et oui, peut-être quelque chose de l'ordre d'une sécurité, ne serait-ce qu'une sécurité sensible ou affective, c'est pas rien.
Mais ouais, surtout, moi j'ai l'impression que quand je pense à l'insécurité, je pense surtout à la solitude, en fait, parce qu'on peut se sentir totalement pas safe du tout au milieu d'une foule, mais c'est parce qu'intérieurement on est seul, et que certains mouvements vont nous rendre seuls au milieu de la foule. On parle jamais de l'insécurité en forêt, par exemple. Mais en forêt, on peut se sentir très en insécurité, quoi.
Parlons-en.
Voilà, je pense qu'il faut délocaliser le conflit ou l'idée qu'on a de l'insécurité sur la forêt, notamment Senonche, qui est une très belle forêt où en plus il y a des bombes. Voilà, faut essayer de transformer.
Moi, j'ai eu ce sentiment d'insécurité cet été parce qu'il y a eu le feu. J'étais moi au milieu du feu dans les hauteurs de Nice, à Carrosse, et moi j'ai eu cette insécurité comme ça. Forestière, tout d'un coup, je me suis vu entouré de flammes. Enfin, j'étais un peu loin, hein, j'exagère un tout petit peu. Mais
vous avez sauté, c'est ça?
Ouais, non, mais j'ai vu comme un spectacle, parce que j'étais dans les hauteurs, j'ai vu les flammes se multiplier et entourer comme ça ma famille. Et ouais, je me suis dit, bon. Mais par contre, je voulais dire ça m'est traversé, mais moi, j'appartiens à la première génération, donc vous aussi, qui est la première génération qui gagne moins d'argent que les générations précédentes. Parce que jusqu'ici, toutes les générations gagnaient au fur et à mesure. Et depuis ma génération, donc moi je suis quarantenaire, dans les années 75, et ben c'est la première génération qui gagne moins que ses parents. C'est quand même étonnant, non?
Mais tu trouves qu'on est dans une société plus juste, mais pourtant, La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit, mais Titanic, de toute façon, c'est une femme riche qui tombe amoureuse d'un homme pauvre, ça arrive jamais dans la vie.
Une femme riche, ça m'étonnerait qu'elle tombe amoureuse de 5 cochards, quoi. C'est pas une femme riche, elle va être très riche. Elle va se promener dans la rue, elle va voir un mendiant, elle va pas lui dire, veux-tu m'épouser?
Ouais.
Je pense qu'elle va se marier avec un homme riche.
Tu penses que les riches se marient entre eux?
Oui, je pense qu'ils se marient entre eux. Parce que si une femme est riche, elle va vouloir un mari riche pour bien vivre. Elle va pas vouloir un mari pauvre, elle devra tout payer.
Et le contraire, tu crois que ça existe?
Non, ça revient au même, je pense. Parce que un homme riche avec une femme pauvre, non, je crois pas. Ça, enfin, on peut voir de tout, hein, je sais pas.
Ouais.
Il y a certaines personnes qui peuvent aimer une femme pauvre.
Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. The distance and spaces between us, you have come to show you. Go on.
J'avoue que c'était pour se faire du bien après 98. Titanic, on n'a pas résisté.
Moi, ça me touche pas du tout.
Ah. Jean-Christophe Maurice, ça...
Non, mais moi, je suis un cœur de pierre.
Par contre, ce petit garçon qu'on a entendu évoque quelque chose que vous évoquez aussi au début du spectacle, la façon dont on est divisé déjà rien qu'à l'intérieur du théâtre, parce qu'il y a les catégories 1, les catégories 2, les catégories 3.
Oui, les Bouffes du Nord, on s'amuse avec la structure des Bouffes du Nord, parce que catégorie 1, donc les gens alors, on commence par les pauvres, donc ils sont tout en haut, catégorie 3, donc bon, ils ont peu de chances de voir quelque chose, donc ils se sont fait un peu avoir. Catégorie 2, c'est ceux qui voulaient surtout pas qu'on les croie pour des catégories 3, donc ils se sont mis au milieu, et puis qui sont trop radins pour prendre une place en catégorie 1. Donc, et qui peuvent observer les catégories 1. Les catégories 1, ce sont les plus riches, les plus aisés, ceux qui vont au resto après, qui rentrent en taxi, et qui ne réagiront pas du tout à ce qu'on va leur demander durant le spectacle. Donc on part de cette... Voilà, je dis un peu le texte qui est dit au début par notre monsieur loyal, joué par Pascal Sangla, qui commence exprès par montrer les différentes classes sociales du public, qui sont quand même bien faites au Bouffes du Nord.
Et justement, vous mettez à l'épreuve le public parce que vous posez la question de quoi il est capable, de quoi vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable de venir nous sauver si on est en danger sur la scène?
Ouais.
Par exemple.
Par exemple, ouais. Ouais, ouais. Bah.
Et parfois.
On pourrait se poiler, on pourrait. À un moment, il y a un. Ouais. Je sais pas s'il faut le dire. non, mais effectivement, on demande vraiment au public de participer à activement. Voilà, je laisse le mystère un peu, à venir nous aider activement sur scène à un moment. Alors, c'est pas non plus. On fait pas du théâtre forum ni théâtre interactif, même si j'ai rien contre. Mais à un moment, oui, on demande vraiment une participation. Pour, comment dire, redorer un peu le blason de la France. Et
que parfois personne ne vient?
Alors, tout le monde est venu, c'est ça qui me rassure. Mais par contre, c'est un tout petit peu plus... ça met plus de temps à Paris. Non pas que... je pense qu'il y a c'est juste des raisons, c'est que c'est des spectateurs plus chevronnés. Et puis la transgression pour monter sur le plateau des Bouffes du Nord, elle est peut-être plus délicate. Mais en tout cas, on a fait 18 représentations et tout le monde est venu sur le plateau. Au moment donné, on avait besoin d'eux. Vraiment. C'est la pièce dont vous êtes le héros.
Il y a plusieurs situations dans le spectacle, jusque dans vos bras, Jean-Christophe Meurice. On assiste à une scène de pique-nique. Un peu plus tard, on est chez une famille qui accueille des migrants.
Oui.
Et à chaque fois, la langue dérape, et ça peut pas bien se passer, en fait. Même quand on essaie de dire ce qu'il faudrait, c'est jamais exactement ce qu'il faut.
Oui, c'est ça. C'est un peu un focus sur nos maladresses. Parce que, encore une fois, je dis souvent que personne n'est sauvé dans nos pièces, ni nous-mêmes, ni ce que l'on joue, ni le public. Enfin, on essaye de, je veux surtout pas avoir un jugement lointain. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. Mais effectivement, il y a à plusieurs moments, on joue avec la maladresse, consciente ou inconsciente. Une famille d'accueil, un petit peu de gauche, bien pensante, voilà, qui essaye d'accueillir une famille de réfugiés congolais parce qu'il n'y a plus de place dans les foyers. Et obligatoirement, c'est le choc des cultures. Quand ils arrivent dans leur intérieur, bon, c'est un mélange de compassion et puis de faire bien attention de d'éteindre l'interrupteur au moment où vous allez vous coucher. Enfin, c'est un mélange de pragmatisme.
J'espère que vous avez fait bon voyage. Enfin,
ouais,
bon...
tout ça est un, ouais, voilà. Ils commencent comme s'ils revenaient d'une croisière et puis ça l'échappe. Donc, on aime bien montrer au microscope. C'est notre travail un peu d'observation des éventuelles maladresses. Mais encore une fois, sans un jugement, parce que on peut être féroce et tendre à la fois, en tout cas c'est ce qu'on espère. Par contre, pour le pique-nique, c'est autre chose, parce qu'on montre un pique-nique de copains comme ça, qui parlent de manière très décomplexée, parce que c'est un peu le mot à la mode, hein, d'être complexé. Maintenant on parle plus de racisme ordinaire, on parle de racisme même décomplexé. Donc là par contre on sauve personne.
Et puis de paroles décomplexées, elle était presque, c'était un problème.
Oui. En tout cas, là, sur cette scène-là, qui est quand même assez odieuse, elle est très odieuse. Bon, voilà, on a voulu faire un cliché très 2017, tous les clichés de très 2017 et tout le catalogue du racisme à tous les étages.
Et il correspond à quoi ce rire que vous provoquez ?
Alors là, c'est une question qui revient très souvent, c'est-à-dire que face à des racistes, vraiment, mais des décomplexés, hein, je reprends un peu les mots des parties. Y a des gens qui sont choqués de voir des rires dans la salle, mais le rire, c'est notre fusible, quoi. Heureusement qu'on a le rire pour ne pas se tuer, quoi. C'est-à-dire que c'est face à l'effroi, face à l'horreur, on ne peut que rire. En tout cas, c'est ma définition et c'est pour ça que je m'exprime. Parce que tout aussi sérieux, comment je le nomme là, comment dire, c'est un besoin organique de rire. Et ça, ce rire, je le comprends. Voilà, on peut autant pleurer que rire. D'où l'expression pleurer de rire que je trouve assez belle. C'est sur ce fil-là qu'on essaye toujours d'être. Ouais.
Eddie Depreto, vous aviez quel âge en 98 ? Vous vous en souvenez ?
Pas trop. J'étais très jeune. Je me souviens juste de mon père qui avait fait de cet événement un énorme événement à la maison.
Et vous aviez quel âge ?
C'était en 98.
C'est un peu vexant quand on entend que certains se souviennent même pas.
Non, je m'en souviens, mais je devais avoir 5, 6 ans, ouais, c'est ça.
On va écouter votre chanson Kid, Eddie Depreto, et vous parler de votre expérience en grandissant et de cette injonction, il faut que tu sois un homme, ou en tout cas, il faut que tu sois un vrai garçon. Est-ce que vous avez l'impression que votre génération aujourd'hui est plus ouverte et moins sensible à ces injonctions-là ou pas ?
En tout cas, j'ai l'analyse aujourd'hui de me dire, de m'écarter un peu de ces figures mâles que j'ai eues durant toute mon adolescence et toute mon enfance, sur justement toutes ces figures qui nous disaient comment être viril, comment être un homme, comment recevoir les choses et comment les gérer d'une certaine manière. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu table rase de tout ça et j'ai accepté la part de féminité que je voulais avoir et en tout cas qui était un peu naturelle.
Il y a un titre qui s'appelle Beaulieu, qui évoque la banlieue, et vous dites il vaut mieux que je te quitte. Pourquoi ?
Bah, c'est un peu ce paradoxe-là, en tout cas pour moi, dans la banlieue où j'ai vécu, c'est que j'y ai appris énormément de choses. Il y a toute mon éducation, il y a le contexte social qui était très important. Comme tout le monde, j'ai grandi là-dedans, donc il y a quelque chose de très nostalgique, mais en même temps, l'idée de s'envoler, l'idée de prendre ses propres valises et d'ouvrir ses ailes pour aller vers d'autres horizons et beaucoup plus d'indépendance. Donc c'est ça, je suis très content de partir, mais j'en garde toutes tes briques, c'est ce que je dis dans la chanson. C'est je garde tout ce que tu m'as appris.
Et pourquoi Aznavour, ça reste la référence ?
Aznavour, c'était la référence de ma mère énormément, qui écoutait énormément. Pendant toute mon enfance, elle me disait, écoute ce monsieur, et il passait énormément à la maison. Ça a été vraiment le son qui m'a bercé, qui était toujours très présent.
Et vous, Eddie Depreto, je crois que vous n'avez pas eu le temps de compléter la liste. Être français, c'est sur le tableau, mais vous diriez quoi comme mot ?
Moi, je serais plutôt pour. Ça veut rien dire. Je parlais avec un ami l'autre fois de la fierté, justement, d'être français. C'est à discuter. Je me sens, oui, français, mais je me sens plus sans frontières. C'est tellement diversifié aujourd'hui. J'ai tellement vécu, par exemple, dans un berceau, justement, où on était très, tout le monde était, c'était très éclectique dans quoi on a grandi, enfin dans quoi j'ai grandi en tout cas, et je pourrais pas y répondre, je sais pas trop.
Quand on a gagné l'Eurovision aussi, on peut être fier d'être français. C'était il y a longtemps.
Fier d'être français.
Eddie de Pretto se dit un artiste non genré et il parle de tout dans ses morceaux, la sexualité, l'injonction de virilité, les clichés dans lesquels on est enfermé. Ado, il a pu à la fois jouer à Action Man et chanter les Spice Girls. Il a grandi à Créteil au bout de la ligne 8 avec Barbara, Nougaro et le rap. Et quand on lui a demandé de quoi il avait besoin, il a répondu ce sera un iPhone et moi, juste le téléphone en main et des mots.
Je suis Eddie de Pretto, nous sommes en studio avec Jean-Christophe Meurice, des Chiens de Navarre et le collectif Catastrophe. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture, on est ensemble jusqu'à minuit. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs ni des gestes qui veulent dire et je sais, ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent groguise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive, virilité abusive. Tu seras viril mon kid, je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive, virilité
ce que peut l'histoire, dans des moments incertains, c'est au moins de dire ceci. C'est-à-dire que le pire n'est pas certain, et ce qui se décide sous nos yeux ne sera pas commandé par une origine qui, souterrainement, nous oblige à y acquiescer. Ça se construit ensemble, collectivement. C'est un projet, qui est un projet que nous devons appréhender activement. Et donc, oui, je pense que ce qu'on a à dire, là, je répondais à des jeunes qui avaient des enfants entre 10 et 14 ans, et c'était tout de suite après les attentats, et ils me posaient des questions sur qu'est-ce qu'on va devenir. Et ce que je me devais en tant qu'adulte de dire à des enfants, c'est que même les pires situations finissent toujours par trouver une issue. Que cette issue n'est pas nécessairement celle qu'on avait souhaitée, ni prévue, ni celle qu'on avait pour laquelle on avait milité, travaillé, mais que les guerres ont toujours une fin et que l'histoire n'est jamais écrite par avance. Pour le reste, ça peut être pire et ça peut être aussi ce qu'on annonce, mais c'est à nous d'en décider aujourd'hui et collectivement.
C'était la voix de l'historien Patrick Boucheron qui fait partie des voix que vous citez, le collectif Catastrophe dans Laisser la nuit est encore jeune. Pourquoi vous l'avez dédié aux nuits, ce livre ?
Pour plusieurs raisons, parce que déjà je crois que notre espèce de communauté de sensibilité qui est à la base de Catastrophe est née la nuit. Est née dans des choses qu'on faisait la nuit, dans des soirées qu'on organisait, des spectacles un peu foireux qu'on essayait de mettre en œuvre et qui se passaient la nuit. C'est souvent dans l'après spectacle ou après concert ou après je ne sais quoi que se disaient les choses qui comptaient le plus, les choses les plus essentielles. Et peut-être aussi parce que la nuit est un des derniers espaces qui résiste à la volonté de tout contrôler, de la toute transparence. Quoi. Il y a eu un essai super de Michael Fossel aux éditions Autrement qui s'appelle La Nuit et qui déplie cette idée-là que la nuit est un des derniers espaces de résistance. Et, par exemple, très concrètement, dans le code civil, je crois, de 22h à 5h du matin, quelque chose comme ça, les lois s'appliquent, je ne sais plus ce que c'est exactement la formule, mais un peu moins ou un peu différemment. Il y a une espèce de flou poétique dans ce code. Et c'est vrai que la nuit, les relations sont souvent un peu troubles, un peu ambiguës. Les relations et pas que les relations, et nos actions, et ce qu'on pense, ce qu'on dit. Et ce trouble-là, cette ambiguïté-là, ce moment où tout est en l'air et donc où tout est possible et étrange, nous intéresse beaucoup dans Catastrophe. Donc voilà, aux nuits.
Dans le livre, vous allez à rebours, parce que ça commence par une fin du monde, pour aller vers un début. D'où ça vient cette idée que l'impasse, c'est le début de quelque chose, qu'on n'est pas la fin d'un monde, mais le début d'un nouveau ?
Bah, ça vient de simplement le fait assez évident qu'on a encore quelques années à vivre sur Terre. Donc, en tout cas, on pense, donc il faut quand même faire quelque chose. Donc de fait, tout n'est pas fini, assez évidemment. Et donc il va bien falloir l'essai avant tout c'était surtout cette question très simple, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, voilà, qu'est-ce on est là, on a 20 ans, 25 ans, faut bien qu'on fasse quelque chose.
C'est aussi une petite astuce pour se débarrasser de la peur, c'est-à-dire puisqu'on a toujours peur que ça s'effondre, on a peur du mur, fonçons dedans. Voilà, je n'arrive pas à articuler, je fonce dans le mur. Mais commençons par ça, en fait. Commençons par se dire, de toute manière, tout est foutu. Ok, bon, ça, n'en ayant plus peur, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Parce que justement, le mouvement du livre, on a l'impression que c'est ça, c'est un mouvement de... C'est se défaire, en fait. On a l'impression qu'à la fin du livre, on va pouvoir commencer à construire. Mmh. On s'est défait de tout ce qui nous empêchait.
Ah, le livre est inaugural. Il est...
Et ça commence presque à la fin du livre.
Oui, enfin, tout commence à la fin du livre, quand on ferme le livre.
Tout commence à la fin, par la fin.
Il y a deux sentiments dont vous parlez et qui sont aussi présents dans la pièce des Chiens de Navarre. C'est la colère et la joie. Comme si vous vouliez réhabiliter ces deux sentiments-là. Pourquoi ?
Parce que les deux nous renseignent déjà sur ce à quoi on tient. La colère comme la joie sont des espèces de manifestations d'une évidence de quelque chose auquel on tient. C'est assez rare, en fait, parce qu'il y a plein de sentiments, d'expressions qui sont protecteurs, qui sont codés socialement, qui sont et la colère et la joie, il y a un espèce de truc qui dit en fait ça j'y tiens, ça me fait rire parce qu'en fait ça marche vraiment, ça vraiment ça m'énerve parce que je tiens à autre chose. Et peut-être quelque chose de l'ordre de la pulsion de vie, en fait, qui s'exprime autant dans la colère que dans la joie.
On parlait du rire avec Jean-Christophe Meurice. Vous êtes pour le premier degré et demi. C'est quoi ?
Le premier degré et demi, c'est une façon de pouvoir se permettre une fraîcheur, une certaine naïveté, mais en se la reprochant déjà, en fait. Du coup, on se dit déjà qu'on est ridicule, parce que oui, on veut un monde meilleur. On trouve qu'il y a des problèmes, qu'il y a des choses qui ne vont pas, et on veut que ça aille.
Sait bien que dire ça, c'est déjà rentrer dans un... Voilà, dans
mais
un
on le dit quand même, vraiment.
Mais on le dit quand même, ouais.
C'est ça le paradoxe.
Mais on sait qu'on est ridicule en le disant, mais c'est pas grave, on prend ce risque-là, et ça, voilà. Donc si on se moque déjà de nous comme ça, les autres peuvent le faire aussi, on se moque tous ensemble.
Tout voilà. En y croyant.
Tout ça, en
on
y
essaie
croyant.
Vraiment de mais tenir
c'est
à la
croyant et on revient à 98 aussi, c'est on a envie d'y croire.
L'envie d'y croire.
Est-ce que vous vous faites assez confiance parce que vous dites ce livre c'est aussi comme un c'est pour fixer un sentiment de jeunesse ou fixer nos idées aujourd'hui c'est un message à nous plus tard comme si peut-être potentiellement vous alliez perdre ce sentiment.
Ah bah oui on en est même presque
sans certains. Doute et puis c'est aussi une manière de encore une fois peut-être de répondre par avance à des réactions qu'on a. Ah oui, c'est beau, c'est beau, vous essayez de parler au premier degré, mais vous êtes jeune, vous verrez. C'est aussi pour répondre à ça, dire d'accord, mais en fait, là, on va pas s'excuser de le penser maintenant, puisqu'on le pense. Mais par contre, oui, on se doute que vous avez ce regard. Bon, très bien. Mmh. Et juste le premier degré et demi, pour moi, ça c'est un rapport aussi avec ce que disait Jean-Christophe Meurice sur garder vraiment ensemble, dans la même main, la férocité et la tendresse. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, dans ce qu'on c'est-à-dire garder... ouais, l'ironie et la douceur, mais en même temps, pouvoir parler d'une chose, se dire on y croit et on n'y croit pas. Mais vraiment en même temps, vraiment, on a de la tendresse et en même temps, on garde un sens critique. Et ne pas, ne pas lâcher l'un au profit de l'autre, essayer de garder les sentiments complexes, puisqu'on les ressent de manière complexe, ne pas les exprimer de manière trop simple, quoi. Donc le premier degré et demi.
Et sur ce sentiment de l'enfance, vous citez Patrick Modiano et son discours à l'Académie suédoise en 2014, qui disait « D'où sans doute ce désir d'écrire qui m'a pris, comme beaucoup d'autres, au sortir de l'enfance. Vous espérez que les adultes vous liront. Ils seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre. Et ils sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur. »
Oui, oui. C'est aussi adressé aux adultes, je pense.
aux grands.
Mais c'est pas une question d'âge, en fait. C'est vraiment une question de représentation de... d'esprit de sérieux aussi, sans doute. Enfin, je crois que nous, on n'est pas sûr d'avoir raison. C'est aussi ça que ça veut dire, le premier degré et demi. Et c'est aussi ça que ça veut dire, cette histoire d'enfance et tout ça. C'est qu'on n'est pas certain de notre vision du monde, tout ça. Et c'est un peu difficile de se faire recadrer par des gens qui apparemment ont tout résolu et sont sûrs d'eux. Et c'est aussi très modestement ça, ce livre. C'est dire, en fait, on a envie de pouvoir parler de notre doute... à garder le bénéfice du doute à plusieurs. Pas être obligé de se cacher le soir, se dire là je doute, mais en fait se dire tiens, et si on assumait si on assumait qu'on tremble, quoi. Si on assumait que la crise nous procure des sensations contradictoires.
Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. Lionel Jospin lancera dès cet après-midi un comité national chargé de suivre les travaux d'adaptation de tous les systèmes électroniques du pays. Une adaptation qui concerne presque toutes les entreprises. Certaines d'entre elles s'organisent toutes seules, d'autres font appel à une aide extérieure. Regardez l'exemple de cette société d'électromécanique des Alpes-Maritimes où se sont rendus Yasmina Farber et Frédéric Besson.
Donc je voudrais faire une saisie sur le mois de janvier 2000, il me met janvier 92 et il me marque mois antérieur au premier exercice.
D'ici deux mois, le programme de la comptabilité sera changé. Coût de l'opération, 70 000 francs et des heures de travail de saisie.
La première déception de votre génération, c'est... le bug de l'an 2000 qui n'est pas... Rien ne s'est passé.
Non, rien ne s'est passé.
Ouais,
toutes ces promesses...
Je sais pas, assez étrange, encore une fois, je ne sais pas si c'est générationnel. On en parlait récemment, d'ailleurs, avec une personne rencontrée la nuit, de ce bug de l'an 2000. Et elle nous disait qu'elle aussi, elle voulait... Voilà, elle disait, mais non, bien sûr qu'on n'y croit pas, mais au fond, chacun, en son fort intérieur...
avait un petit frisson.
Ouais, avait un petit
frisson intérieur, comme quoi tout allait exploser, tout allait...
Une pulsion sadique.
Ouais, ou tout, je sais pas, peut-être les extraterrestres allaient arriver. Ou... C'est vrai, il y avait une sorte d'espoir et de crainte en même temps, quoi. C'est... Bon, rien ne s'est passé. C'est pas grave, mais du coup, ça veut dire qu'il faut travailler. Ça ne va pas arriver de, ça ne va pas arriver de l'espace, quoi. Donc, travaillons-nous à construire quelque chose.
On parlait de 98. Dans la frise chronologique, le 11 septembre 2001 est arrivé peu après. Et vous en parlez comme de la percée du mot, justement, catastrophe dans vos vies. Dans la conscience des enfants que vous étiez, parce que c'est le moment de la préadolescence où quand même on commence à comprendre ce qui se passe. Ça correspond à quoi cet événement pour votre génération?
C'est un moment où on voit quelque chose qui n'était pas pensable, où on voit un avion s'écraser dans une tour, ce qui était assez inenvisageable avant 2001. Si quelqu'un avait dit en, 1998 qu'un avion allait s'écraser dans une tour. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez fou.
Ça annonce ces événements qui arrivent alors qu'on pensait que ça n'arriverait pas. On en parle dans le livre, mais on aime bien ce concept. C'est le signe noir. Ça a été théorisé. C'est vraiment l'idée. En fait, pendant très longtemps, tous les signes étaient blancs. Et donc, on disait signe noir pour dire quand une poule aura des dents, quoi. Et puis un jour, un Australien a vu un signe noir. Et non seulement un signe noir, mais deux, trois, enfin toute une espèce. Et donc ça a été théorisé récemment comme le signe noir pour dire ce qui était absolument impossible et qui pourtant advient. Et c'est-à-dire que ça peut arriver dans un sens
fou,
tragique,
hein.
Comme
ça
pourrait arriver septembre. Et comme,
mais si
ça,
je, ça, si ça je me levais,
si tu te mettais nue sur la table. Et ça peut arriver dans... Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi la force de l'improbable. Ça peut être aussi très joyeux, quoi. Ce que tout le monde dit, ouais, rien de... Voilà, la société est foutue. Hein, et bon, et si... Et si soudain quelque chose arrivait, c'est-à-dire qu'il faut rester ouvert dans les deux sens, quoi.
Le signe noir peut être une force positive ou une force négative.
Bah, toute remise en cause des certitudes en général sont assez bonnes. Enfin.
Et c'est quoi la science du phénix dont vous parlez aussi, Adrien, Arthur?
Le phénix, la science ou la secte, ou le groupe, les personnes qui peuvent se reconnaître, en tout cas dans cette idée que tout peut être autrement, que tout peut renaître.
Parce que le phénix renaît ses cendres, c'est ça qu'il faut préciser.
Voilà, le phénix est un animal mythique, mais il existe dans nos esprits à chaque fois qu'on identifie quelque chose qui est possiblement en train de disparaître, et quelque chose va venir après, et ce sera sûrement quelque chose, mais on ne peut pas dire si c'est mauvais.
C'est un espèce d'espoir fondé sur le désespoir. Et nous, en tous les cas, j'ai l'impression que dans Catastrophe, on s'est beaucoup reconnus sur l'humour, en fait. C'est un humour qu'on partageait, où on sentait qu'à la fois, on avait vraiment conscience de la fin de telle chose, d'un désespoir face à ce qui se passe politiquement, par exemple, évidemment, qu'on est désespéré. Et en même temps, il advient des choses, il y a des choses qui bougent, il y a des choses, je sais pas, comme Nuit debout, mais comme plein d'autres choses, mais il y a des gargouilles, quoi. Donc c'est à la fois une manière d'y croire et de ne pas y croire et d'y croire du coup. Enfin voilà, et c'était surtout dans l'humour, je crois que le phénix a beaucoup d'humour.
Et on a parlé de la colère et de la joie comme sentiment à réhabiliter. Vous parlez aussi de la discussion, et j'y pense par rapport aux discussions animées qu'il y a aussi dans le spectacle des Chiens de Navarre. Vous parlez de cette étrange passion du dernier mot.
Je crois que c'est surtout flagrant dans les débats télévisés, par exemple.
Ah oui, enfin,
je veux dire
dans le spectacle
des débats, quoi. Ouais. Enfin, est-ce que le goût du débat, du vrai débat, du débat d'idées, ça peut être un goût pour vraiment le dernier mot, c'est-à-dire l'emporter et faire que l'autre se tait? Je suis pas sûre que dans ce cas-là, il y ait vraiment débat et échange d'idées. Et nous, ça nous attriste un peu, quoi, de voir que le seul but, en fait, est de faire en sorte que l'autre se taise, quoi.
On aimerait voir un débat où tout d'un coup quelqu'un s'arrête et disent
mince,
vous avez raison,
complètement raison,
mais pas forcément vous avez raison, mais tiens mon système avait un point aveugle, quoi, ce qui arrive tout le temps dans les débats, mais c'est comme s'il y a personne qui fait semblant de pas entendre, comme si les deux avec un casque insonorisant sur les oreilles, et ça n'arrive jamais, quoi, que quelqu'un retourne son opinion ou aille un peu à côté, quoi,
la porte ouverte au doute, en fait.
Oui, mais ça soulève une chose, c'est que peut-être aussi dans notre pays on s'intéresse plus vraiment à la politique de manière générale, parce que les vrais débats politiques plus anciens pouvaient permettre du doute, de la raison, de pas être... Et on se demande aujourd'hui si effectivement... Enfin, on se demande pas. Moi, j'ai l'impression que... Enfin, c'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais que le spectacle prime plus que le débat politique. Parce que le vrai débat, on va dire politique, c'est-à-dire pour construire une société, c'est effectivement emprunt tout le temps de doute, de discussion, de débat. Mais aujourd'hui, je suis pas si sûr que les Français, ça les intéresse vraiment, enfin... Sans vouloir poser cette chose-là.
J'ai l'impression que c'est pas que politique quand même. Hein. Enfin, c'est pas pour avoir le dernier mot que je dis ça, mais aussi sur, enfin, dans les débats qu'on appelle de société, enfin, sur des choses qui cristallisent des tensions comme ça entre nous, dans des pays, sur Internet, où on veut. Il y a aussi quand même vachement ce truc de où il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question tellement. Je pense parce que c'est structurel, parce qu'on ne se permet pas.
Fragilité.
De se remettre en question, parce qu'on est en train d'asséner quelque chose et de défendre quelque chose sans même avoir eu le temps de se demander si on y croyait vraiment.
Présent sur Internet.
Ouais, sans doute.
Sur plein de...
Ouais. Sans doute. Mais je trouve que les intellectuels sont quand même plus doux que les politiques, quand même, un tout petit peu. Sur le fait de, quand même, les distinctions, mais je suis d'accord, tout à fait.
Dans le spectacle, Jean-Christophe Meurice, à un moment, il y a un personnage qui dit « Je te tolère ». Donc avant de s'écouter, avant de... Il y a déjà ce...
Je ne te comprends pas, mais je te tolère.
Je te tolère. C'est la première étape. Eddie De Preto est encore avec nous en studio et on va écouter un deuxième morceau qui s'appelle « Fête de trop ».
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que vives sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis entré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos.
Bonjour, je suis Frédéric Ferrer, auteur, metteur en scène, et je suis en train de travailler sur la reprise d'un spectacle qui s'appelle Kyoto Forever 2 et qui met en jeu une conférence de l'ONU sur le changement climatique.
On approche de minuit et c'est l'heure de notre coup de fil à une scène nationale en France. On fait une image avec un artiste depuis un plateau de théâtre. Puisque nous réfléchissons à un autre avenir possible, on appelle Frédéric Ferrer qui présente sa pièce Kyoto Forever 2 à la scène nationale Le Carré demain, mardi 5 décembre à Château-Gontier. Frédéric Ferrer, qu'est-ce qui s'est passé depuis 97 et le protocole de Tokyo, de Kyoto, pardon ?
On s'est aperçu que le protocole de Kyoto était insuffisant pour lutter contre l'augmentation des températures et l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone. Donc l'humanité n'a cessé de se réunir chaque année pour tenter d'améliorer Kyoto, puis de trouver un protocole et un accord qui viendrait remplacer le protocole de Kyoto. Alors ça a d'abord commencé par un échec assez cinglant en 2009 lors de la COP 15 de Copenhague, et puis il y a eu le fameux accord ensuite de Paris, l'accord de Paris en 2015 lors de la COP 21, qui est le premier accord, à la différence de celui de Kyoto, qui est le premier accord universel, c'est-à-dire au sens où l'ensemble des pays l'ont adopté, alors que Kyoto ne concernait que les pays industrialisés qui émettaient le plus de dioxyde de carbone.
Et alors dans le spectacle, on sera en 2022.
Voilà, le spectacle fait le pari que le protocole de Paris, en tous les cas que l'accord de Paris, bien, est insuffisant lui aussi pour limiter les émissions de dioxyde de carbone, ce que d'ailleurs on vient de confirmer cette année, et est insuffisant aussi pour lutter contre l'augmentation des températures. Et donc l'humanité tente d'aboutir à un nouvel accord en 2022, et cette fois-ci c'est la dernière chance, et cette fois-ci il faut vraiment sauver l'espèce. Et donc on est dans les dernières heures de la tentative de se mettre d'accord sur un accord vraiment, vraiment ambitieux.
Et en préparant le spectacle, Frédéric Ferrer, ça a été quoi les plus gros problèmes pendant la discussion de cette préparation de COP28 ?
Ce qui était le plus passionnant en fait en travaillant sur ce spectacle, bon, déjà j'avais nourri le travail en étant allé dans les COP précédentes juste avant Paris. J'étais allé à la COP20 de Lima, j'avais pu faire partie des équipes, enfin avoir une carte qui me permettait d'assister aux négociations. Mais ce qui était passionnant dans le travail que nous avons fait avec les acteurs, c'est que chacun était vraiment, enfin le Brésilien c'est vraiment un Brésilien, l'Américaine c'est une Américaine, et chacun était vraiment porteur d'une réalité vécue. Et donc c'est la première fois que je répète un spectacle où j'ai l'impression de ne jamais répéter, au sens où on était tellement dans des discussions entre nous sur la question des émissions de dioxyde de carbone en Chine, que la Chine tentait d'expliquer, etc. On était dans des processus chacun qui nourrissaient en fait, qui était en fait, on avait l'impression que les répétitions c'était que des débats entre nous, que le spectacle était là en fait, parce qu'on essayait de trouver déjà des solutions entre nous. Voilà.
Et vous en avez trouvé ?
Alors,
sans dévoiler le.
La difficulté, en fait, moi, pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce spectacle, c'est parce que je voulais questionner comment se fait-il que depuis 25 ans, l'humanité se réunit pour tenter d'aboutir à un accord qui vise à réduire la température du globe terrestre, en tous les cas d'empêcher son augmentation, et depuis 25 ans, elle augmente. Donc, c'est quoi le problème ? Si j'ai travaillé sur un spectacle comme celui-ci, c'est que je me disais que c'était peut-être dans le processus de négociation lui-même qu'il y avait, dans cette gouvernance du climat finalement, qu'il y avait peut-être des blocages. Et donc le spectacle tente justement d'éclairer ces différents blocages et alors, je veux pas révéler la solution, mais enfin la fin, mais tente de comprendre pourquoi c'est lent, pourquoi ce sont des usines de lenteur qui n'aboutissent pas.
Merci beaucoup Frédéric Ferrer. Si vous êtes à Château-Gontier demain mardi 5 décembre, vous pourrez vous projeter en 2022 à la scène nationale. Merci.
Merci à vous.
On retourne en studio avec le collectif Catastrophe. On approche de minuit. Est-ce qu'on peut lire ce que vous avez écrit justement à la nuit, Blandine Rinkel, et qui est aussi un morceau de musique parce que vous sortez un album en janvier prochain ?
Exactement. La nuit retourne à l'anonymat. Sans ego et sans intérêt, c'est la nuit, opaque, gratuite, en pure perte. Chacun s'est désormais libéré de ses affaires courantes et divagues. Dans le ciel, tu scrutes la mort de Dieu. Sur les murs aux traces mal éclairées, tu imagines des silhouettes. Ferme les yeux maintenant, écoute les appels. Et à cet instant, une ampoule grille sur un corps qui s'effondre. Et à cet instant, deux cons font l'amour. Et à cet instant, le soleil des Amériques luit comme un gong. Et à cet instant, une vieille femme pense à son premier bain de mer. Et à cet instant, son époux, lui, rêve au cimetière. Et à cet instant, au numéro 3 de la rue Mokoyava, à Saint-Pétersbourg, un oiseau achève sa lente agonie. Et à cet instant, six regards s'électrocutent, réciproquement. Et à cet instant, l'enfant hurle parce qu'il faut vivre. Et à cet instant, dans notre nuit, il y a une lumière. Stole from your pockets and yes I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? On sera parti des airs entendus, des sous-entendus, des sarcasmes fatigants, fatigués, pour aller vers le sentiment, la joie, la colère et les vrais échanges.
Eddie De Preto, son EP s'appelle Kid, il part en tournée, il sera le 7 décembre à Bordeaux, avant Châtenay-Malabry, Amiens, et il sera le 20 décembre à Bercy, en première partie de Julien Doré. Le spectacle des Chiens de Navarre est en tournée jusqu'au mois de mai. L'essai récit poétique du collectif Catastrophe, La nuit est encore jeune, est aux éditions Pauvert et l'album sortira en janvier 2018. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à la technique ce soir. Merci à Pascal Bénard et Éric Villenfin. Vous écoutez France Culture, il est minuit, c'est déjà demain, c'est le jour d'après et c'est l'heure des nuits. Don't be imprisoned by judgments and wisdom. Come to my lap, be a man. I'm off the breast and I'm learning to hunt Reggiani, yeah, he'd understand. Be bold, but don't fight me and don't try to move me now. No need for romance to wake up the dormant. The seasons are coming around. And yes, I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl.